Bonjour, vous écoutez Nouvelles Perspectives, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Et avec nous, en tant qu'invité, nous avons Kevin Mussien. Kevin Mussien qui est coach de dirigeants. Et avec Kevin, aujourd'hui, nous avons décidé de commencer l'année de la meilleure manière possible, surtout quand on fait du business, avec un sujet sur l'alignement. Bienvenue Kevin, comment vas-tu ?
Mais très bien, merci. Bonjour Nathalie, bonjour Aurélie et merci beaucoup de l'invitation.
Merci à toi d'avoir répondu présent. Kevin, avant qu'on démarre et qu'on parle de ton histoire, de ta proposition et d'alignement, évidemment, puisqu'on est là pour ça, est-ce que toi aussi, tu as une petite actu en ce début d'année ?
Alors, une actu. Alors, moi, je suis en Nouvelle-Calédonie, donc l'année commence, puisque la rentrée scolaire est en février pour la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Et donc, c'est un démarrage nouvelle année en tout point de vue, pas dans la continuité de l'année dernière. On coupe tout et on recommence. Donc, ouais, des belles offres.
Ok, trop bien. Je continue pas mal dans la continuité de 2025 en ce qui me concerne. Je t'ai connue parce que tu participes au programme TGIM.
Oui.
Et que tu coaches les dirigeants et que tu as une approche alignement. Alors, les gens qui sont hyper branchés numérologie et tout ça nous expliquent que c'est un nouveau démarrage, qu'il y a une espèce de reset d'un point de vue, je ne sais pas trop quoi, cosmique, énergétique, etc. Eh bien, écoute, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on va les prendre au mot, on va essayer de redémarrer, bien aligner nous et notre business. Est-ce que tu veux bien nous dire pour toi qu'est-ce que c'est l'alignement et qu'est-ce qu'on aligne ? Parce que aligner, c'est aligner des objets, on comprend, mais l'alignement intérieur puis l'alignement dans le business, c'est quoi pour toi ?
Ouais, super. Oui, je pense qu'une bonne définition, c'est toujours mieux. Ouais. Alignement, ça se comprend. Hein. On met les choses les uns après les autres, l'un derrière les autres. Et puis, d'un point de vue business, c'est quand le dirigeant, le business et l'entreprise, voilà, s'alignent et tirent dans la même direction, en fait. C'est ça, l'alignement. L'alignement que j'évoque, moi, c'est plutôt une stratégie incarnée mmh. avec le dirigeant et son business, son équipe, son entreprise.
Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton histoire, toi, en tant qu'accompagnant, qui tu es, où tu vis, on le sait, en Nouvelle-Calédonie, mais peut-être un peu plus précisément. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner des dirigeants et à parler d'alignement ?
Oui, alors surtout, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions, parce que dès que je commence à parler, j'ai tendance à beaucoup parler, hein, donc n'hésitez pas. Effectivement, je suis en Nouvelle-Calédonie, je suis né en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait mes études en France, et puis j'ai pas mal travaillé à l'étranger, et encore aujourd'hui, avec la visio et puis le télétravail que nous permet en fait de travailler jusqu'à l'autre bout du monde, et puis la limite là-dedans, ça va être vraiment le décalage horaire. Donc, en France, jusqu'au Canada, en passant par les États-Unis, la Polynésie, l'Asie, l'Australie, on peut travailler vraiment avec tout le monde. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, qui n'est pas accessible et pas forcément aligné avec tout le monde, mais qui est vraiment intéressant en termes de développement. Moi, c'est une activité que je mène maintenant depuis 4 ans, avec du développement de plus en plus en perfectionnement sur le coaching business, puisque je suis formateur agréé à la base, conseil en entreprise également. Et puis, je me suis orienté de plus en plus vers le coaching business. On appelle ça coaching business dans des termes plus génériques que tout le monde comprend maintenant. Mais c'est vrai que c'est un vrai mélange de conseils, de formation, de coaching et d'approche vraiment personnalisée auprès d'une personne, un dirigeant en l'occurrence, un entrepreneur, un cadre pour la réussite de ses activités. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis 4 ans maintenant et depuis vraiment de façon soutenue depuis à peu près 2 ans. Voilà.
Oui. Tu faisais quoi avant ?
Ah, avant, j'étais salarié okay. dans le privé, puis dans le public. Dans le privé, j'ai commencé en tant qu'ingénieur en géosciences, géologue spécifiquement. Okay. J'étais responsable d'un site minier en Nouvelle-Calédonie. On a des exploitations de minerais de nickel. Et mon premier challenge, et moi j'ai été tout le temps, tout, de long de mon parcours, en fait, drivé par des projets assez ambitieux à mettre en place. Et mon premier challenge à la sortie de l'école, en fait, de la formation, ça a été de remettre un minéralier dans une baie pour être chargé, puisque la mine, en l'occurrence, avait du mal à envoyer son minerai vers l'extérieur, vers l'export. Voilà, un très gros challenge à la sortie des études, mêlant énormément d'opérationnel, de stratégie, d'humain dans un environnement qui n'est pas facile, l'environnement minier. Et là, j'ai beaucoup appris et j'ai surtout appris à considérer l'humain. Tout ça, je l'ai pris en conscience au fur et à mesure. Comme tout le monde, je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai fait des murs, voilà. Et puis, j'ai fait une grosse carrière aussi dans la fonction publique, en tant qu'ingénieur des techniques, que j'ai passé un autre diplôme, et puis un master HEC à Paris, qui m'a conduit vers l'entrepreneuriat. Voilà un petit peu très rapidement mon parcours. Directeur d'entreprise, directeur dans la fonction publique, dans l'administration, notamment une grosse commune, la commune principale de Nouvelle-Calédonie, qui est Nouméa. Et avec toujours des très gros projets mais à mettre en place. Notamment, le dernier en date, ça a été le moustique Wolbachia. En tout cas, c'est une bactérie, Wolbachia, qui a permis d'éradiquer en fait la propagation des arboviroses, qui sont la dengue, le chikungunya, le zika. De stopper cette propagation. On avait des épidémies qui avaient des décès, des cinquantaines de personnes déclarées malades chaque jour. Des coûts énormes aussi pour la santé publique, évidemment. Surtout des traumatismes de santé très forts, et depuis, on n'a plus rien. Donc, j'ai pu être à l'initiative avec d'autres personnes de ce dispositif qui fonctionne depuis plusieurs années. Et ça a été le dernier gros projet en date dans l'administration, et depuis, j'en suis sorti.
D'accord, donc un switch dans l'entrepreneuriat après une vraie carrière dans l'ingénierie et la direction, c'est plus fréquent qu'on croirait.
Alors, ça a été étape par étape. Dans tous mes projets, je le disais très rapidement, dès le début, en fait, dans les mines, je me suis devant des très gros objectifs qui étaient, pour le coup, assez ambitieux. Moi, en sortant des études, j'ai réussi par et avec les personnes. Donc, en associant vraiment les personnes, et dans l'avancée, j'y allais vraiment à tâtons, et je ne savais pas trop si ça allait prendre, mais ça a pris. Je l'ai répété, en fait, cette façon de faire dans l'administration, dans l'entreprise, dans des entreprises, donc dans le privé également, et ça a toujours fonctionné. Jusqu'au jour où j'en ai pris conscience, en fait, et vraiment j'allais chercher les personnes et comment mettre les personnes vraiment, on dit, au centre du dispositif. Et c'est jamais évident, en fait, de le faire, comment on le fait exactement dans le quotidien, où il faut systématiquement décider plein de choses, des petites choses, des grosses choses, comment on associe les personnes. Donc, ça s'est passé, comme je disais, j'ai multiples anecdotes où ça s'est mal passé, mais j'ai appris et j'ai progressé jusqu'à devenir formateur, en fait, et me dire, ben, il y a besoin à un moment donné aussi qu'on transfère des compétences, dont par mon expérience, et je suis devenu formateur agréé, et je faisais de la formation jusqu'à les élus, donc les politiques et les cadres dans les administrations, dans le privé. Toujours dans la partie leadership, stratégie, gestion de projet, et puis voilà, stratégie, ouais, organisation, vision. Donc, tout ça, je l'ai mis en place au fur et à mesure. Et quand en faisant de la formation, je me suis rendu compte que ce qu'il manquait, en fait, on apprend pas mal de choses en formation, et finalement, il va nous rester 20% peut-être réellement de la valeur. Et puis, on va avoir une déperdition derrière dans la mise en place, parce que ce qu'on va apprendre en formation, ça va être difficile de le traduire en opérationnel dans notre propre contexte. Donc, je me suis mis aussi au conseil. En parallèle, je faisais du conseil et de la formation. Donc, dans le conseil, j'étais dans l'entreprise. Et là, pour le coup, je mettais en place aussi avec les dirigeants leur projet. Et les deux avaient quand même du mal à matcher, hein, parce que c'est quand même des activités qui sont réglementées. Et je me suis dit, mais en fait, non, la bonne clé, c'est peut-être le coaching, puisque, en tout cas, le mode coaching, puisque ça me permet d'être vraiment bras droit et vraiment à côté du dirigeant pour l'aider à mettre en place lui-même. Parce que ce que je voyais dans le conseil, c'est qu'il y avait également une déperdition dans le temps des dispositifs qui étaient mis en place, la transformation qui était mise en place. Pourquoi il y avait une déperdition? Parce que j'étais, moi, le bras armé, en tout cas, j'étais la, le bras opérationnel avec les cadres de la mise en place. Mais il leur manquait à un moment donné un maillon, parce que le conseiller, le consultant, il sort. Donc là, on transforme le dirigeant, le cadre, voire l'entrepreneur, dans la mise en place de ce qu'il souhaite, donc en termes d'objectifs, en termes de transformation de son entreprise. Et c'est beaucoup plus transformant dans le temps. Et en arrivant, et on va en parler, sur l'alignement, où là, vraiment, on est sur l'horlogerie suisse, où on va vraiment aller affiner précisément l'alignement entre le dirigeant, son business et son entreprise.
Ah, on a un début de réponse à la question que je t'avais posée tout à l'heure, qui est « qu'est-ce qu'on aligne ?»
Ah oui.
Le dirigeant, le business, et tu as dit quoi, l'entreprise ?
Le dirigeant, le business, son entreprise.
J'aimerais bien à un moment donné aussi que tu nous parles de tes flops, parce que tu as dit, on va peut-être en parler un petit peu après, ce à quoi tu as été confronté et puis tes échecs, si tu es à l'aise de parler avec ça, réussite et échecs. Et puis, quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que c'est plus intéressant de former les managers opérationnels qui, au quotidien, seront sur le terrain, que finalement d'arriver comme ça, distiller une formation sans relation avec l'opérationnel. On voit beaucoup trop ça dans les administrations et dans les grandes entreprises. Et puis finalement, ça fait pchit parce que c'était beaucoup trop théorique. Et puis, le manager opérationnel, c'est quand même lui qui va être en charge de faire tout, justement, les petits réglages dont tu parlais, l'horlogerie fine.
Oui.
Moi qui ai été manager opérationnel, j'ai vu ce genre de configuration un peu trop souvent.
Et ce qui est sûr, c'est que c'est l'action qui fait la transformation. Ouais. Si on ne se met pas en action, en fait, on n'acquiert pas les compétences. Et c'est vraiment important de pouvoir mettre en action ce que l'on a. C'est la seule façon de transformer et d'acquérir, en fait, la compétence. Alors, les flops, je ne sais pas, je ne l'ai pas préparé. Donc, si on parle d'alignement, et ça peut faire le lien par la suite, je l'expliquerai, on a tous des moteurs et des talents, en fait, qui vont nous permettre d'être plus à l'aise sur certaines postures, comportements que l'on va avoir. Et c'est vrai que quand on n'a pas conscience de ça, ces talents, ces moteurs vont s'exercer. On va le faire d'une certaine façon qui est nous, en fait. Mais en face, de l'autre côté, ça va être mal pris parce qu'on va se dire qu'on n'a pas pris les pincettes pour le dire, pour le faire, pour le mettre en place. On n'a pas suffisamment concerté. Plein de situations comme celle-là, en fait, qui vont nous mettre en défaut parce que finalement, entre guillemets, on n'a pas bien fait. Mais pour le coup, on l'a fait comme ça nous semblait être le mieux à un moment donné, pas voulant faire mal, en fait. Hein, on ne voulait pas faire mal et puis être trop en injonction envers les équipes, mais la façon de procéder à taper. Donc, par exemple, moi, je pense à une situation où la décision, j'étais directeur donc d'une structure où il y avait une cinquantaine de personnes, la décision, je l'avais prise, et puis sans même vraiment en parler avec mes équipes, ou en parler, mais seulement en information finalement, on était déjà dans la mise en place. Et moi, j'étais convaincu du résultat et le temps, je ne l'ai pas pris pour associer les équipes. Mais j'étais vraiment, moi, dans mon moteur et dans mes talents d'y aller et je prenais la responsabilité de l'échec, si ça marchait. C'est moi qui prenais tout, sauf que mes équipes, en fait, ont pris ça pour elles en termes de responsabilité et tout de suite ont bloqué et m'en ont voulu immédiatement en me disant « Mais non, mais si on va à l'échec, c'est nous. » Et j'aurais dit « Non, non, c'est moi. » Et en fait, on sait, il y a eu de la friction, par exemple, sur des sujets comme ça. Donc, on veut bien faire. Puis, on se retrouve face à un problème de mieux considérer, en tout cas, son entreprise.
On ne peut pas faire sans l'adhésion des équipes, hein. C'est compliqué, c'est difficile.
Non, ouais, on ne peut pas.
Il faut embarquer tout le monde.
Oui, il faut embarquer. Et là, il y a plusieurs façons de le faire, parce que c'est vrai que c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que quand on a, par exemple, dans les talents que l'on a, on peut être à une forte estime de soi, qui est quelque chose de positif, parce que quand on dit forte estime de soi, on peut dire que la personne, elle est à but de sa personne, etc. Non. Dans les talents, en fait, ça va être quelque chose de positif, parce que c'est de la psychologie positive, et on va être dans une force de décision autonome, d'accord. Donc, dès lors qu'on est là-dedans, on a la capacité facilement, en fait, et l'énergie pour y aller, et y aller seul même, tout en embarquant l'équipe qui est derrière. Mais on aura moins de facilité d'associer l'équipe. Et là, on a d'autres talents qui doivent être associés pour aller chercher les équipes et de les identifier de façon factuelle, de façon consciente. Ça permet effectivement de les activer, d'aller chercher les équipes sur une façon de faire qui nous va mieux.
Donc, on aligne aussi les équipes avec le projet.
Oui, dans l'entreprise, ce sont les équipes. Sans dénaturer toute la valeur des équipes et des personnes. Hein. Attention, on parle bien du dirigeant. L'accompagnement que je fais, il est celui des dirigeants, de l'entrepreneur, du cadre. Ça, c'est vraiment important. Si, par exemple, c'est un cadre intermédiaire, il va y avoir son alignement avec sa hiérarchie au-dessus et son alignement avec son équipe en dessous. Mais c'est une question, en fait, de positionnement du curseur d'accompagnement. Les équipes constituent, en fait, l'entreprise.
Les cadres intermédiaires, je trouve que c'est l'une des postures les plus délicates. Parce qu'on se trouve souvent pris dans des intérêts contradictoires.
Oui.
Et je pense que notre audience, on a également des entrepreneurs, qui sont plutôt des solopreneurs, qui n'ont pas forcément d'équipe encore. Qu'est-ce que tu dirais pour eux les aider également à aligner leur année 2026 avec leur business?
Oui. Les solopreneurs, comme les startups avec des très, très petits effectifs, c'est bien de définir le business, en fait, ce que c'est que le business. Le business et l'entreprise, c'est deux choses différentes. L'entreprise, c'est l'organisation plutôt qui va permettre au business de s'exprimer, de se tenir dans le temps, d'accord? Et différemment, le business, ça va être une relation qui est vivante. Donc, voilà, ça va être la relation vivante entre une proposition de valeur et un marché. Et qui est-ce qui tient ça pour que ça soit vivant? C'est bien l'entrepreneur, donc le solopreneur. Ce solopreneur, effectivement, il faut qu'il s'aligne avec sa vision du produit, son utilisateur qui est le marché et comment il le fait. Aujourd'hui, on a des méthodes toutes faites qui fonctionnent où les personnes, les entrepreneurs, les solopreneurs ne sont pas forcément à l'aise. Par exemple, communiquer avec des posts quotidiens ou trois fois par semaine sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et puis, dupliquer et faire du volume. Oui, ça marchera puisque c'est une question de volumétrie et de statistiques. À un moment donné, ça va prendre. Maintenant, si l'offre, le positionnement est stabilisé, quand je dis mieux, c'est plus en alignement avec la personne. C'est qu'il faut vraiment qu'elle le porte, en fait, et que ça soit authentique dans sa communication. Donc là, on voit bien que l'alignement, pour le coup, pour des solopreneurs, entre la personne, son positionnement et le marché, c'est essentiel, quoi.
Comment ? C'est le fameux founder market fit dont parle Oussama, parfois.
Oui.
L'alignement entre le fondateur et son marché, entre qui il est et son marché. Je voudrais apporter une nuance au sujet des solopreneurs. Solopreneur ne signifie pas qu'on travaille seul et sans équipe. En général, on travaille avec d'autres gens. Il y a des chaînes décisionnelles et il y a des personnes décisionnaires. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais on travaille en équipe. Si tu veux, moi, je suis indépendante et plus le temps passe, plus je me rends compte que je travaille de plus en plus vraiment en équipe. Simplement, c'est sous forme de partenariat, etc. Telle personne dirige ceci, telle autre personne dirige cela. Et puis, en vérité, ça ressemble quand même, qu'on le veuille ou non, à une forme d'entreprise parce que tout seul, on ne fait pas. On fait avec les gens.
Et Kevin, c'est vrai que souvent, dès qu'on parle d'alignement, on va tout de suite... Après, peut-être, je dirais, dans l'inconscient collectif, penser qu'on va parler de trucs perchés, liés au dev perso, etc. Tu vois, depuis le début, je trouve que tu as un discours assez clair, structurant, même, je dirais, cartésien. Et je pense qu'il y a peut-être différentes manières de définir l'alignement, mais je voulais effectivement remonter ça.
Et si je peux compléter, l'alignement, la meilleure définition, c'est tout à l'heure, ça a été dit, c'est on aligne.
Ouais.
On met les choses les uns après les autres. Oui, l'alignement, c'est vraiment, quel que soit. En fait, on a besoin de tout. On est des humains, c'est quelque chose qui est très complexe. Nous sommes des êtres d'émotion. D'autres, on va dire, on va être des êtres d'atomes, etc. Donc, Le bien-être constitue un alignement avec soi, le sport pour les activités physiques, le yoga ou je ne sais quoi d'autre pour se retrouver, avoir du temps à soi, avec sa famille, etc. Tout ça constitue l'alignement. Et quand on va parler à un moment donné d'énergie, c'est-à-dire d'avoir une énergie qui nous permet en fait de leader les projets que l'on a, nécessairement, il faut être en bonne forme physique. Ça ne peut pas être que intellectuel. Donc, tout ça constitue aussi l'alignement, mais c'est vrai que celui que j'évoque, c'est un alignement plus de cohérence décisionnelle entre soi, son business, son entreprise dont on a besoin et les partenaires, en l'occurrence, qui interviennent avec nous.
Que ce soit interne ou externe, on parle de clients internes ou de clients externes techniquement. Le sujet d'alignement n'est pas forcément un sujet perché, un sujet abstrait. Et je pense que c'est peut-être l'une des missions et l'un des rôles aujourd'hui de cette émission de rappeler que c'est quelque chose de très concret, très terrain. Vous avez dû remarquer, Kevin, c'est pas un type qui est voilà dans le monde de l'ésotérisme ou je sais pas quoi. C'est voilà un ingénieur, un dirigeant. Et j'avais envie aussi, je suis très contente du coup que ça vienne sur la table, de montrer que l'alignement c'est très concret, que effectivement il y a une dimension holistique qui doit être prise en considération. Bien-être psychologique, émotionnel, physique, etc., et entrepreneurial, et enfin à tous les niveaux. Hein, c'est en fait on est un tout, donc tout ça doit être considéré. Mais je trouve ça important effectivement. Est-ce que tu as des exemples, Kevin, de moments où voilà le sujet de l'alignement est venu sur la table? Peut-être des exemples de désalignement. C'est peut-être des choses qui vont plus facilement te venir à l'esprit, où il a fallu réaligner des choses, tu vois. Mais en étant voilà, très concret, pas des termes abstraits ou des choses. Parce qu'on voit beaucoup de bullshit, en fait, autour de l'alignement et des discours hyper abstraits. Et du coup, ça n'a pas de substance. Moi, je voudrais qu'on remette de la substance aujourd'hui aussi autour de ce concept.
Ouais. Un exemple de désalignement fort, ça va être, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, une personne que j'ai accompagnée, qui devient directrice d'une organisation publique privée, qui est relativement jeune, donc la trentaine. Voilà. Quand je dis relativement jeune, c'est que j'estime que les enjeux en fait en face sur cette structure sont quand même forts. Malgré tout, ça lui donne envie. Elle y va. Elle est complètement désalignée à un moment donné parce que elle se challenge tellement fort en fait qu'elle s'est mise un stress de réussite. Pas du tout dans ses talents. Et là, elle se trompe. Et du coup, on a changé en fait son énergie finalement, sa façon de percevoir sa réussite dans cette organisation, en allant chercher ses vrais moteurs et ses vrais talents. Donc, on a fait une analyse de personnalité, des talents, on a identifié tout ce qu'il fallait et on a identifié surtout ce qui se passait en termes de situation. Et elle allait forcément dans quelque chose de très dur. Et en face d'elle, elle avait un conseil d'administration fait de public et de privé. C'est du gouvernement, c'est des grosses entreprises. Donc, voilà, gros challenge quand même. Et elle était dans un stress tellement haut que pour moi, en tout cas, elle allait à l'échec.
D'accord.
Ses talents en face, ses talents qui étaient une facilité, par exemple, d'échange avec les personnes de... a une très forte résistance au stress et à la pression, mais qui est plus alimentée si elle est en contact avec des personnes dans la concertation. On l'a mise en risque pour aller en concertation, mais en la préparant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée dans un moment de force à elle, la concertation, et en fait, elle en est sortie brillamment. Et elle a récupéré des informations qui ont permis de structurer des choses, et ça, c'était pas du tout son talent. Ce qui lui manquait d'ailleurs à cette personne, c'était ce qui lui manquait, c'est toujours positif, mais moins de talent dans la persévérance. Et on est allé chercher justement d'autres talents pour aller travailler de façon durable. Et tellement elle organise en fait les choses en tant que directrice de structure. Donc voilà un exemple. Je ne sais pas s'il est assez concret, mais qui me vient comme ça tout de suite.
Ok, quelqu'un qui voulait réussir, qui était jeune, qui se mettait trop de stress et qui risquait d'aller dans le mur. Alors, j'invite tous les dirigeants qui nous écoutent à essayer de défocaliser des résultats à court terme qui peuvent générer ce genre de désalignement pour s'intéresser un peu plus à la qualité des processus et accepter le fait que certains résultats peuvent mettre du temps à arriver, que c'est normal en fait.